Bien, bonjour à tous et merci aux enseignants et à l'Université de Tous les Savoirs de m'accueillir. Je trouve qu'on est dans un lieu tellement beau ici au Puy que c'est un plaisir en fait de venir faire une conférence. Ce n'est pas toujours le cas, donc je suis très contente de parler devant vous. C'est quelque chose qui m'arrive pas fréquemment de parler devant des étudiants aussi, ne prenez pas mal, jeunes que vous. Donc je suis dit chercheur et j'ai plutôt l'habitude de discuter et de m'exprimer plutôt devant d'autres chercheurs ou des étudiants qui sont en fin d'études. Donc je voudrais vraiment que cette rencontre puisse être un échange entre nous et que je ne parte pas sur des choses que vous ne me laissiez pas partir, sur des choses que vous ne comprendriez pas ou qui ne vous intéresseraient pas. Donc je vous demande une chose, c'est que vous n'hésitiez pas à m'interrompre quand vous ne comprenez pas, quand ça vous paraît trop technique. Vous savez, je travaille dans une discipline qui est assez aride, hein, mon sujet est pas est plutôt austère. Certains transparents que je vais vous passer, certains diaporamas, vous paraît tout à fait austère aussi. Donc n'hésitez pas, moi je suis là pour justement vous les expliquer. Hein. Il y a tout un langage qui est le langage de ma profession, de mon milieu. Je suis sociologue des risques. Mais je suis là pour c'est que nous échangions et que le plus important, c'est pas que je vous en dise le plus possible, mais c'est que je vous dise des choses qui vous parleront et qui vous seront utiles. Donc, effectivement, comme disait monsieur...
Stambourin.
J'ai pas bien entendu.
Stambourin.
On peut prendre le temps. On peut prendre le temps, et c'est pas une question de quantité, c'est plutôt une question de qualité. Donc, je vais vous parler des risques technologiques. J'ai plutôt pris le sujet sous l'angle des risques technologiques. Qu'est-ce qu'on entend sous ce mot-là? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ma première... et je vais commencer en fait par vous passer un peu la parole. J'aimerais bien que vous me disiez, mais comme ça très rapidement, très spontanément, si vous avez des exemples de risques technologiques, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'en citer? Ça vous évoque rien? Qu'est-ce que c'est un risque technologique pour vous? C'est pas une colle, hein? Pardon?
La bombe nucléaire,
tout à fait. Donc, d'autres? Et qu'est-ce que serait un risque non technologique? Pardon?
Un torrent.
Une catastrophe naturelle. D'autres idées? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe par rapport à un risque? Vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe? Qu'est-ce que c'est qu'un accident? Et citez-moi un exemple historique, vous devez en avoir, de catastrophe, naturelle ou autre chose. Vous avez souvenir de quelque chose dans la presse? Oui. Le tsunami? Oui, tout à fait. Vous vous rappelez la date? 2004. Est-ce que l'un d'entre vous a été confronté à une situation de crise, à un accident, vous ou un de vos proches? Non? C'est vrai que vous vivez dans une ville qui n'est peut-être pas trop soumise au risque, je ne sais pas. On en parlera parce qu'effectivement, vous devez en avoir quand même, au moins le risque d'inondation, justement. Bon. Alors, on a évoqué, rien que dans vos réponses, il y a beaucoup d'éléments déjà. Hein. Le nucléaire, une technologie à risque. Alors, bombe, le nucléaire, c'est bombe, mais c'est aussi centrale nucléaire. Hein. Des torrents qui débordent, des catastrophes naturelles. Et puis, il y a le risque, et puis il y a la catastrophe, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, on va essayer d'éclaircir un peu ces notions, et je vais vous présenter un petit peu un panorama de ce que sont c'est pas exhaustif, hein, je vais pas tout dire, sinon on en aurait pour des heures et des heures, le sujet est quand même très complexe, très vaste. Je vais vous faire un petit panorama de ce que sont les risques. Mais avant, quand même vous dire une chose qui me paraît importante, c'est que quand on parle de risque, quand on parle d'accident, de catastrophe, évidemment on voit des choses très négatives. Les risques, c'est le risque de perdre quelque chose, ça peut aller jusqu'à la vie pour des individus, mais perdre aussi des biens, enfin, notion de perte. Mais néanmoins, il n'y a de risque que parce que, aussi, il y a l'espoir de gagner quelque chose. Le risque, c'est à la fois, c'est une probabilité de perdre quelque chose, mais aussi une probabilité de gagner quelque chose, un gain. Donc le risque, tel que je vais vous l'évoquer aujourd'hui, est la contrepartie de l'espoir de quelque chose de bon. Je crois qu'on l'oublie un peu trop souvent, puisqu'on est dans une société qui regarde beaucoup les catastrophes, les choses, les événements dommageables, et qu'on oublie que c'est la contrepartie d'un confort de vie, de richesses produites, et qu'évidemment, ce confort produit et ces richesses, ce confort et ces richesses ne se construisent pas et ne se diffusent pas sans qu'il y ait du danger qui soit lié. Donc, c'est un peu là. C'est ma première... voilà, c'est le premier point. Je crois qu'il faut être bien conscient de ça. Nous sommes... Si on parle autant de risques dans notre société, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le moral, qu'on est un peu pessimiste d'une manière générale, mais c'est aussi parce que nous sommes dans des sociétés très complexes, très développées, avec des technologies de plus en plus complexes et de plus en plus connectées entre elles. Et que de ces technologies, nous sommes très dépendants, mais en même temps, nous y sommes très attachés. Et c'est pour ça que, évidemment, la question des risques qu'elles génèrent, ces technologies, nous préoccupe de plus en plus. Hein, quand on vivait dans des sociétés, on va dire, un peu plus... Peut-être. Qu'est-ce qu'elle dit libre ? Oui. Libre par rapport aux techniques, n'était pas accroché, à, etc., plus robuste, plus simple. On était soumis à des risques également, à des risques importants, mais on n'avait pas ce sentiment, peut-être, on avait sentiment d'autre chose. On avait le problème de la maladie, les risques naturels étaient beaucoup plus importants, mais les risques technologiques, on n'en parlait pas comme ça, hein, on n'en parlait pas, voilà. Donc il faut avoir ce premier point à l'esprit. Tiens, il est bizarre, mon transparent, il fait des voix. Ces risques, effectivement, sont liés à des processus de production, à des technologies. En plusieurs points de ces technologies, hein, ça peut être lié au processus de production lui-même, c'est-à-dire toutes les installations qui visent à produire un bien quelconque. Ça peut être lié aux produits utilisés, produits chimiques, on a parlé du nucléaire, la radioactivité est effectivement une substance dangereuse, dangereuse à manipuler, dangereuse en elle-même. Le processus est aussi dangereux, le processus qui vise à produire de l'électricité. Moi, je vais plutôt parler de la production d'électricité que de la bombe, parce que là, je crois qu'on est un petit peu dans un autre registre, hein, qui est celui de la guerre. Là, on va parler des risques, hein, des risques d'accidents qui peuvent arriver en temps ordinaire, en temps de paix. Hein. Donc, des produits, hein, les produits qu'on utilise qui sont des produits dangereux. Et puis, les risques peuvent être liés également au transport soit des matières premières, effectivement, transport de produits chimiques, mais également aussi transport de produits finis qu'on achemine, qui peuvent, rien que par le fait qu'ils sont transportés, sont soumis aux aléas du voyage, de la route. Hein. Voilà. On va donc parler un peu de tout ça, et puis je vous parlerai aussi un peu, ça sera un peu dans une deuxième partie, de ce qu'on peut faire et de ce qui est fait, et de comment on s'efforce de se prémunir contre les risques et contre les accidents, bien sûr. Voilà. Alors, quand on parle de risque, je vais vous donner une petite définition. Dans mon domaine, dans mon métier, On parle d'une chose très précise, qui est que tout risque a deux parties. Le risque, si vous voulez, désigne deux éléments distincts, qui évidemment, ensuite, s'interpénètrent, mais qu'on distingue dans un premier temps. C'est d'abord une probabilité pour qu'un accident sur d'origine technologique ou naturelle, hein, c'est pareil, se produise. Voilà, nous sommes, il y a quelque part, quelque chose de dangereux, soit effectivement une technique qu'on manipule, soit on habite, puisque vous parlez du risque naturel, à côté d'une rivière qui peut déborder de temps en temps. Voilà. Donc il y a la source de l'accident que nous, dans notre jargon, nous appelons l'aléa. Alors l'aléa, c'est intéressant parce que le terme est mathématique et signifie probabilité. Et évidemment, ça désigne tout de suite ce que nous essayons de faire quand on essaye de se protéger contre les risques, c'est qu'on essaye de calculer leur probabilité de survenue. Hein, ça nous vient des assurances, les assurances elles font ça, elles essayent de calculer les probabilités d'accident, par exemple, pour assurer la couverture accident de la route. Il y a cette partie-là. Et puis, il y a la deuxième partie, et c'est celle qui est la plus importante et plus intéressante pour nous, c'est que le phénomène en question, le produit, le processus, eh bien, il n'est pas tout seul. Il est là, il existe dans un milieu qui est occupé par les hommes et les femmes, par les collectivités, par des activités humaines, et qu'ils sont susceptibles, s'il se produit quelque chose, d'en être affecté, voire très gravement. C'est-à-dire, on peut être blessé, on peut être tué, mais on peut aussi avoir des destructions, etc. Pour vous donner une image, et là je repars dans le risque naturel, vous m'excuserez, une avalanche qui se produit à 6000 mètres d'altitude en plein Himalaya où il n'y a personne, c'est pas un risque. C'est un phénomène naturel, spectaculaire, mais c'est pas un risque. Une tempête, un ouragan dans le désert, c'est pas un risque. Un ouragan à Haïti, pour parler de l'actualité, dans un pays peuplé, avec pauvres, avec des maisons qui sont pas, enfin, c'est pas un ouragan d'ailleurs, c'était un séisme, enfin je parle pas d'un séisme, mais ils ont aussi souvent des ouragans, voilà. Là, c'est un risque. Et pour reprendre justement ces exemples-là, un tremblement de terre dans une île comme Haïti, avec beaucoup de constructions très légères, parce qu'on est dans un pays pauvre, parce que les gens n'ont pas de moyens de se protéger, c'est un risque beaucoup plus élevé qu'un tremblement de terre dans une ville dont tous les immeubles ont été calculés au séisme. Ont été construits de manière à ce qu'ils puissent résister à des secousses de magnitude. Alors tout est relatif, mais enfin vous voyez, c'est ça le risque. Hein. Il y a ces deux parties, et c'est justement parce qu'il y a cette partie des activités humaines et des humains, des collectivités humaines qui sont exposées, que des gens comme moi, qui suis sociologue, et pas ingénieur, ni physicienne, ni technicienne, travaillons sur dans ce domaine. Ça interroge souvent les gens qui ne sont pas des initiés, je dirais, de ce champ, en disant « mais vous êtes sociologue, et mais comment ça se fait ? Il me semblait qu'il y avait des ingénieurs qui travaillaient dans les risques technologiques. » Eh bien non, parce que le plus important dans un risque, c'est effectivement la part qui est exposée. Dans notre langage, on appelle ça la vulnérabilité. La part vulnérable qui peut être affectée par la réalisation de ce risque, réalisation sous forme accidentelle. Ça va jusque-là ? Voilà, alors on va commencer par... Je vais vous faire un petit balayage comme ça, de ce que... des classifications, un peu une petite typologie des risques, selon... Moi, j'ai choisi comme entrée le lieu d'origine, selon l'origine. C'est justement important de parler de l'origine, étant donné ce que je viens de vous dire précédemment, parce que selon qu'effectivement l'accident ou le danger va se réaliser dans un lieu fixe, bien identifié, qu'on connaît, ou va se réaliser quelque part au hasard sur une route ou dans l'air, puisque c'est, mettons, une catastrophe aérienne, eh bien, évidemment, les conséquences vont être très différentes. Et d'ailleurs, la manière aussi d'essayer de le gérer, mais avant aussi de le prévenir, est très différente. Hein. Ça se comprend facilement, mais on pourra en parler un peu plus, si vous voulez. Alors, donc, premier grand source de risque, un premier grand risque au pluriel, les risques qui sont effectivement liés à un site industriel. Une usine, un ensemble d'usines, parfois même justement une zone industrielle où il y a plusieurs usines et puis qui peuvent se mettre un petit peu en réseau s'il y a un accident, hein, ça c'est déjà arrivé, on a appelé ça les risques dominos. Voilà, donc un site industriel qui peut présenter des dangers dus à des stockage de gaz, stockage d'engrais. Je vais vous parler tout à l'heure d'une catastrophe que vous avez certainement entendu parler parce que vous êtes assez vieux pour l'avoir vécue, qui est celle de Toulouse, AZF, Toulouse, c'est un stockage d'engrais, lié aussi à des produits chimiques, hein, le chlore, le phosgène, etc., des hydrocarbures, bon. Tous des produits qui sont dangereux à manipuler, qui peuvent soit exploser, soit qui sont toxiques et qui peuvent sortir dans la nature et contaminer les gens. Vous avez également les risques sont liés, peuvent être liés au stockage, mais également au processus de production et justement, par exemple, des réacteurs nucléaires, les activités minières, là aussi, l'actualité est quand même assez riche en événements dramatiques concernant les mines. Bon. Donc là, quand on parle de risques situés, des risques localisés sur un site industriel, vous pouvez avoir soit des accidents brutaux, soudains, grosse explosion, c'est ce qui s'est passé à Toulouse en 2001. Vous pouvez aussi avoir une pollution diffuse. C'est-à-dire, il y a un nuage toxique qui sort conteneur quelconque, d'un réacteur, par exemple, pour parler de réacteur nucléaire, une fuite de radioactivité à l'extérieur, etc. Donc, qui ne va pas faire un événement spectaculaire, mais qui va empoisonner en quelque sorte tout un environnement. Et puis, on peut avoir des choses qui combinent évidemment les deux, hein. Pas interdit de faire de la surenchère. Voilà. Alors, j'ai quelques exemples dont je vais vous parler, parce que je pense que c'est intéressant de rentrer un petit peu dans les cas, hein, notamment l'exemple de Toulouse. Vous en souvenez un petit peu, non, Toulouse ? Non ? Voilà. Un accident, un gros accident nucléaire qui a failli virer à la catastrophe et qui n'a pas viré à la catastrophe aux États-Unis, qui est intéressant, à Trim Island, mais là, vous n'étiez pas nés, sauf vos profs. Ils s'en souviennent peut-être. Voilà. Il n'y a pas tellement longtemps, on peut penser à la plateforme de British Petroleum dans le golfe du Mexique. Vous vous souvenez ? Bon, ça aussi. Alors là, à la fois une explosion, donc il y a eu des dégâts humains, et puis ensuite une pollution, et qui a duré des mois, quoi, et qui dure encore, enfin, pas terminé. Et puis, alors voilà, ça c'est les premiers. Voilà pour les risques liés à un site industriel. Vous avez également, grosse catégorie de risques très importants, sont les risques liés au transport. Alors ferroviaire, transport aérien, transport routier, transport maritime. Vous avez aussi, peut-être aussi en tête, des exemples de catastrophes aériennes. Aussi, on a... alors là, on a les deux choses, hein, c'est peut-être sur du transport de voyageurs ou du transport de produits polluants ou toxiques. C'est le cas quand on a des marées noires avec des pétroliers qui sombrent et qui répandent leur cargaison en mer. Et vous avez une marée noire. Bon. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le secteur des transports de matières dangereuses, c'est-à-dire effectivement des camions qui transportent des produits toxiques ou inflammables et à qui il arrive un accident et vous avez une... C'est arrivé, on en a un certain nombre, ça arrive périodiquement, je dirais, un incendie, et ça peut dégénérer en catastrophe. Peut-être vous êtes effectivement suffisamment âgé pour vous souvenir peut-être de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, où un camion a pris feu avec son chargement qui était, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et là, ça a été une catastrophe épouvantable. Quarantaine de personnes sont mortes, brûlées dans leur voiture. Enfin, c'était quelque chose d'assez vrai, parce que c'était dans un tunnel. Alors, vous aviez une conjonction de choses qui sont difficiles à prévoir. Bon. Maintenant, ceci dit, il y a des moyens de faire. Alors, voilà. Mais je ne voulais pas commencer par celui-là, parce qu'on parlait de transport. Oui, parce que effectivement, c'est bien les accidents de transport qui peuvent être les plus meurtriers, en quelque sorte, puisque là, on est justement pas sur site, c'est beaucoup plus difficile à prévoir. Il y a des conjonctions, il y a des gens, population assez dense. Soit parce que là, ben, dans les avions, dans les trains, soit parce que c'est dans des lieux très fréquentés. Donc, les accidents de transport sont ce qu'on redoute beaucoup, et ce qui est d'ailleurs pas le plus difficile à prévenir, mais un peu le plus difficile à cerner. Alors, je voulais vous présenter un petit exemple que vous n'avez pas connu pour la plupart, puisque c'était en juin 88, mais qui a marqué terriblement à l'époque, qui est l'accident de la gare de Lyon. Alors, si je l'ai choisi, c'est parce que ça illustre bien comment se produit une espèce d'enchaînement fatal, dramatique, et comment un accident peut se produire à partir de quantités de petites défaillances, hein, de choses pas contrôlées, pas maîtrisées. Et finalement, à partir de peu de choses, créer quelque chose avec des effets considérables. Donc, c'était le 21 juin 1988. On était dans la gare de Lyon à Paris, tout en bas, à l'étage où on reçoit les trains de banlieue. Alors, vous voyez, 19h10, c'est l'heure où les Parisiens rentrent de leur travail dans leur banlieue, donc la gare de Lyon est comble. Et à ce moment-là, enfin à cette heure-là, un train qui lui avait fait déjà été, je sais plus sur quoi il était, sur quelle ligne il était, Melun-Sénart ou un truc comme ça, un train avait été arrêté en gare, dans une gare quelconque, par une voyageuse qui s'était trompée, enfin le train s'était pas arrêté à la gare, et la voyageuse avait tiré la sonnette d'alarme. Le train s'était arrêté, la voyageuse était descendue, et ensuite le conducteur avait, normalement quand on tire la sonnette d'alarme, le train s'arrête, mais également le train ne peut pas repartir, il faut acquitter toute une série de procédures pour débloquer les freins et pour faire repartir le train. Le conducteur, qui était tout seul dans le train, n'y est pas parvenu, n'arrivait pas à faire repartir son train, il avait beaucoup de retard, etc. Et il a fait toute une série de manœuvres, pas très contrôlées, et sans savoir, il a entièrement débloqué ses freins. C'est-à-dire, il est reparti, il était tout content, son train marchait, mais il n'avait plus de freins, il ne le savait pas. Il est arrivé à quelques kilomètres de la gare de Lyon, dans un moment où le train amorçait sa descente, et là il s'est aperçu qu'il n'avait plus de frein, et donc il est rentré dans la gare de Lyon sans frein, à 70 km à l'heure, et là en lançant des messages d'alerte dans son micro, qui ont été mal interprétés par le service de régulation de la gare, qui ne savait pas d'où ça venait, et qui malencontreusement l'ont aiguillé sur une voie, la voie où il était arrivé sur un quai désert, mais ils l'ont aiguillé sur une voie où stationnait un train de banlieue qui allait partir et qui était en retard et qui était bondé. Le fait qu'il était en retard, ceux du train d'avant montaient. Et il est arrivé à 70 km à l'heure dans ce train, directement dans ce train, Et là, il y a eu 56 morts et 57 blessés. Donc, c'était une très grosse catastrophe. Pour la petite histoire, parce que dans ces histoires-là, ça, c'est un peu toujours, il y a toujours une belle histoire au milieu de l'histoire tragique. Le conducteur du train qui était à Kiev a vu arriver ce train fou. Et il est remonté sur le quai, il est remonté dans sa machine. Il a fait évacuer les passagers au micro en leur priant de descendre jusqu'à la fin. Et il a été la première victime, puisqu'il est resté dans sa machine pour faire évacuer les gens jusqu'à la fin. Donc ça a été la première victime du train. Voilà. Mais ça a été une catastrophe. Alors vous voyez l'enchaînement d'événements qui sont des petites choses, hein, qui peut conduire à une catastrophe de grande ampleur. Alors ça a donné lieu à procès, il y a eu un procès, une association qui s'est constituée, il y a eu un procès, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, et depuis, évidemment, on a essayé aussi d'en tirer d'autres éléments. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de... Alors, il ne faut pas que je dépasse trop les temps. On va reprendre Prima Island. Alors, là, c'est une histoire moins triste, mais on a eu extrêmement chaud. C'est justement sur le nucléaire, parce qu'on parlait. Donc, c'est la catastrophe évitée. C'est un très gros accident qui s'est produit aux États-Unis en 1979. Sur un réacteur dans la centrale nucléaire de Three Mile Island, hein, en Pennsylvanie. C'est une et on a frôlé de justesse le type d'accident de Tchernobyl. Ça aurait pu être Tchernobyl, mais il se trouve que ça a été évité de justesse. Et c'est intéressant de voir comment ça a pu être évité de justesse. Donc ça s'est produit au milieu de la nuit. Alors c'est important aussi, ça, ces détails, ces accidents qui se passe alors que ce sont des équipes de nuit qui sont en général seules, hein, qui y a des effectifs réduits, bref. Il y a une panne de circuit. Est-ce que vous voyez comment fonctionne un réacteur nucléaire? Vous savez, il y a la grosse cocotte minute, et puis il y a tout un tas de circuits. C'est vrai, c'est une cocotte minute un peu, hein, c'est un réacteur. Hein, et il y a tout un tas de circuits qui amènent du liquide. À la fois du liquide qui refroidit et du liquide qui transporte la chaleur et à partir de laquelle on va produire de l'électricité. Donc ce circuit qui transporte le liquide de refroidissement et de transport et caloporteur, enfin de chaleur, est une zone fragile et sensible du réacteur, enfin de la technologie nucléaire. Donc il faut toujours qu'il y ait même niveau, etc. Donc il y a une fuite sur ce circuit. Sur ce circuit de refroidissement, et là vous avez une centrale nucléaire, c'est piloté par des tableaux de contrôle extraordinairement complexes. Donc vous avez des opérateurs qui sont dans la salle des machines, dans la salle des commandes, ils voient rien, ils voient que leur tableau, ils voient que les voyants qui s'allument, ils ont leurs procédures, ils ont etc., mais ils voient pas physiquement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils voient qu'il y a une panne, et puis ils entament, ils l'analysent mal, et ils font toute une série de manœuvres qui aggravent le problème au lieu, mais ça ils ne le savent pas, au lieu de le prévenir, au lieu de le parer, au lieu d'y mettre fin. Donc, en un quart d'heure, ils arrivent à une situation critique où le cœur du réacteur commence à fondre. Et là, si vous voulez, on n'est pas loin, hein, fusion du cœur, on n'est pas loin de ce qui s'est produit à Tchernobyl quelques années plus tard. En 3 heures, on frôlait cette catastrophe-là. Il y a eu effectivement le cœur a fondu, le cœur du réacteur a fondu, et une centrale nucléaire est construite avec une conception de sûreté selon... comme les appellent les ingénieurs du secteur, 3 enceintes de confinement. La première barrière qui empêche que la radioactivité sorte comme ça dans l'atmosphère, c'est la cuve du réacteur lui-même. La seconde, c'est justement les circuits. Et la troisième, c'est une enceinte de confinement qui est là. Si jamais il y a une fuite de radioactivité, elle n'aille pas plus loin que l'enceinte de confinement. Cette enceinte de confinement n'existait pas à Tchernobyl, et c'est pour ça qu'on a eu cette catastrophe nucléaire, qui est la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps, mais elle existait à Three Mile Island, et elle a fonctionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sortie de radioactivité dans, l'atmosphère. Sinon, effectivement, ça aurait été quelque chose d'excessivement grave. Alors ça a été très utile comme accident, puisque ça a permis, à partir de cet accident-là, on a complètement revu les procédures de sûreté et de sécurité nucléaire dans le monde entier. Donc, c'est aussi les accidents, c'est aussi ce qui aide à faire qu'on avance. Vous avez des questions là-dessus, peut-être, non ? Vous n'hésitez pas à m'interrompre si ça vous paraît... Voilà, Toulouse. Vous vous souvenez peut-être un peu de Toulouse. Alors là, c'est aussi c'est intéressant comme exemple, parce que bien que on soit Toulouse, l'accident ait lieu sur un site bien identifié, hein, qui était l'usine Grande Paroisse, dépendant de Total, qui stockait et traitait des produits phytosanitaires, des engrais, etc. Donc, en principe, un établissement bien contrôlé, bien surveillé. On verra tout à l'heure qu'il y a tout un dispositif de contrôle et de surveillance qui fait que les industriels ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils sont soumis à des normes, à des contrôles, etc. Bien qu'on soit dans ce type d'établissement, vous savez ce qu'on appelle les établissements Céveso, eh bien, il s'est produit, donc c'était le 21 septembre 2001, comme c'était 10 jours après le 11 septembre, tout le monde a cru d'abord un attentat terroriste. Non, c'était un accident de nature chimique, donc de nature industrielle, technologique. Donc encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a vu mobiliser mais des bataillons d'experts, il y a des experts, des expertises contre expertises, un procès très long, très important, qui a été bon. Mais on n'a pas fait la lumière sur ce qui s'était produit. Toutes les hypothèses ont été avancées, etc. Si vous avez, ça a été ça, probablement, la plus grosse catastrophe technologique, industrielle, en France, sur le 19e, début du 20e siècle, à peu près. Il y a eu 31 morts qui étaient essentiellement des employés et du personnel qui travaillait sur le site. 2500 blessés, parce que ça a été une énorme explosion et toutes les vitres, les portes, etc., jusqu'au centre de la ville ont volé en éclats, donc avec surpression extrêmement importante. Il y a eu donc des blessés directs parce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu des crasades, des projectiles, et il y a eu aussi énormément de gens qui ont eu des problèmes de surdité, des problèmes d'acouphènes, et des syndromes traumatiques, post-traumatiques, hein, c'est-à-dire des problèmes de 2500 personnes, une ville entière sinistrée, avec des dégâts considérables. Et effectivement, chose étrange qui pend avec toute la matière grise, tous les dispositifs dont nous disposons, les ingénieurs, etc. On n'a jamais, on ne sait pas encore ce qui s'est produit exactement. Voilà, alors, voilà pour les risques qui se produisent dans des usines ou dans des transports. Maintenant, vous avez aussi d'autres types de risques qui vous parleront aussi peut-être plus d'ailleurs, les risques de réseau. Alors ce sont tous les risques qui sont liés à tous ces réseaux qui font grosso modo la complexité de la vie moderne. Nous sommes, nous autres individus modernes, vivants la plupart du temps dans des villes, mais même si nous sommes à la campagne, c'est un petit peu pareil. Notre vie quotidienne est complètement prise en charge par des grands réseaux, par des grandes infrastructures qu'on n'a pas, qu'on oublie dans la vie ordinaire, mais qui sont d'une incroyable complexité, qui supposent des connexions entre des filières d'activité économique, des coopérations entre des professionnels, des acteurs qui sont dans des champs les plus divers, qui supposent qui énormément de personnes, hein, l'implication d'un nombre extrêmement important d'agents, de techniciens, de responsables, d'administratifs, à tout niveau pour que ça fonctionne bien. Et qui sont d'une grande complexité. Effectivement, on a tendance à les oublier parce que on tourne le robinet, on a l'eau qui vient, on oublie complètement toute la complexité, tout ce qui fait qu'on arrive à ça. Hein. Si vous prenez l'eau, déjà, vous avez, vous partez des captages, tout le système de pompage, de distribution d'eau, d'adduction, distribution, et à chaque fois que vous avez des embranchements, vous avez des zones de fragilité. Tous les embranchements, tous les points un peu compliqués, le captage par exemple, le captage c'est une énorme préoccupation pour les gens qui s'occupent de la fourniture de l'eau, parce que c'est un endroit très sensible. L'eau peut être, c'est un lieu de possible contamination, soit accidentelle, soit même malveillante. Donc c'est des sites très, très protégés. Hein. Donc voilà, hein, vous avez ces réseaux-là, si vous pensez évidemment au réseau électrique également, au gaz, le transport du gaz, des accidents de gaz, il y en a de temps en temps, qui sont dramatiques parce que c'est des immeubles entiers qui sont soufflés, donc vous avez à chaque fois quelques morts. Donc voilà, risque de réseau classique. Les réseaux urbains. Et vous avez également, un peu plus aussi compliqué à cerner, tout ce qui est lié à des réseaux plus, je dirais, ils ne sont pas informels, ils sont très formels, tout ce qui est par exemple réseau chaîne alimentaire. Pour nous amener notre nourriture, les ingrédients, les produits voyagent sur des milliers de kilomètres d'un continent à l'autre, et donc à chaque point de chargement, déchargement, vous avez des risques de contamination. Encore une fois, la contamination peut être accidentelle, elle peut être aussi malveillante. Il y a eu un certain nombre d'affaires, je ne sais pas si vous vous rappelez, malveillante ou en tout cas frauduleuse, je ne sais pas si vous vous rappelez l'affaire du lait contaminé chinois. Les Chinois ont eu comme ça un problème sanitaire extrêmement grave. Avec du lait pour bébé, du lait maternisé, dans lequel on avait les fabricants avaient injecté je ne sais quel produit qui était censé renforcer les enfants ou bon, et qui en fait était toxique. Et il y a eu ça a été un scandale en Chine, je crois que même il y a eu quelques condamnations à mort parmi les responsables, il me semble bien. En Chine, on n'y va pas avec l'eau de la cuillère. En France, on est plus mesuré, enfin, avec les responsables. Voilà. Donc vous avez des choses comme ça. Vous avez eu en France, alors évidemment, ça a beaucoup marqué ma génération, mais vous, vous l'avez pas connu, l'affaire du sang contaminé. Ça vous évoque quelque chose ? Oui ? Je crois qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui se destinent aux carrières médicales, infirmiers, infirmières. Alors, l'affaire du sang contaminé a quand même été un peu traumatisante dans le milieu médical. Hein ? Est-ce que ça vaut peut-être le coup qu'on en dise deux mots, ça vous intéresse ? Oui ? Hop. Alors, c'est une affaire assez compliquée parce qu'effectivement, elle met en jeu deux choses. D'une part, une technologie de pointe, complexe, qui est les produits sanguins qui sont distribués à des catégories à des patients, et là il se trouve que c'est parti dans le milieu des hémophiles, mais ça, le sang contaminé va toucher encore d'autres catégories de malades, Voilà, et à un moment, effectivement, il se trouve confronté à l'apparition, l'émergence d'un virus nouveau, d'une maladie nouvelle, d'un agent pathogène, qu'on identifiera quand même relativement rapidement et qu'on nommera SIDA. Mais il y a eu un certain temps avant de comprendre comment se faisait la contamination, et notamment la contamination par le sang. Donc, on sait à partir de 1983, les premières descriptions du sida arrivent en 1981. En 1983, on se doute que la transmission se fait par le sang. Et donc, il y a un risque qui pèse sur le circuit du sang, prélèvement de sang, don de sang, etc., transfusion, enfin donc que là il y a un risque sur toute cette chaîne-là qui est extrêmement complexe. Et donc en France, évidemment, ça cible le Centre national de transfusion sanguine et puis toutes les autorités de santé. Mais les autorités sanitaires, le Centre de transfusion sanguine, etc., les plus hautes autorités politiques tardent à prendre la mesure de la situation et mettent du temps avant interdire un certain nombre de techniques. Une technique qui est la plus dangereuse, vous savez que quand on prélève le sang, on prélève et puis c'est des poules, on mélange et puis bon, donc il suffit d'un lot contaminé pour qu'on contamine l'ensemble. À l'époque, on savait que quand on chauffait, si on chauffait le on a vite assez compris qu'en chauffant le sang, on éliminait le virus. On ne l'a pas fait pour des tas de raisons, je ne rentre pas dans les détails, qui sont liés aussi au confort des malades, etc., parce qu'il fallait revenir à des techniques antérieures qui étaient moins bonnes. Donc on ne l'a pas fait, et aussi on ne l'a pas fait pour la bonne raison qu'ensuite on a retardé, on a mis du temps à mettre en place les dépistages des gens qui donnaient leur sang. Là, les circuits de sang passent beaucoup par... c'est en France, le don de sang est bénévole. Et puis, c'est une grande cause nationale. Alors, on va partout et on prélève. Et en particulier, on prélève dans les prisons. Parce que dans les prisons, comme ça, ça donne aussi l'occasion aux prisonniers de participer à la solidarité. C'est une sorte un peu de rédemption pour eux. Mais c'est aussi là que se concentrait le maximum de risques, puisqu'il y avait beaucoup de drogués, enfin, de toxicomanes, qui étaient plus, une prévalence qui était plus contaminée que l'ensemble de la population. Et on a continué, malgré les soupçons très forts et même les connaissances qu'on en avait, à prélever dans les prisons, bien au-delà du raisonnable. Et quand on a arrêté, effectivement, et qu'on a pris les mesures, plusieurs mois après que tous les signaux d'alerte avaient été tirés, eh bien, il y avait déjà à peu près 90% de la population des hémophiles qui était contaminée, quoi, en quelque sorte. Donc ça fait un énorme scandale, d'abord. Et en 1991-92, on a traduit les principaux responsables qui étaient, il se trouve, des médecins, ils sont devant les tribunaux. Et c'est allé si loin qu'il y a eu des assez fortes condamnations. Si je me souviens bien, le médecin qui était le directeur du Centre de la nationale de transfusion a eu 4 ans de prison ferme, quand même. On ne lui a pas coupé la tête comme on fait en Chine, mais enfin 4 ans de prison ferme. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu le procès des ministres. On a même dû recréer une cour de justice de la République pour pouvoir juger les ministres. Alors ça, les ministres, par contre, ils ont tous été mis hors de cause. C'est essentiellement les techniciens, je dirais, on ne peut pas dire le lampiste, mais enfin, les subalternes, ceux qui n'étaient pas au plus haut niveau, qui ont payé les pots cassés. Voilà. Donc, et ça aussi, ça fait une affaire tout à fait centrale pour prendre conscience d'un certain nombre des risques sanitaires et à partir duquel on a mis en place des agences de sécurité. Vous savez, toutes ces agences de sécurité sanitaire, etc., surveillance, datent de cette période-là, qui a été un traumatisme. Dans la même idée, il y a eu la crise de la vache folle, par exemple. Là aussi. Ensuite, toute une série de mesures. Bon. Alors. Voilà. Alors un tout petit peu de théorie avant de. Enfin, jusque-là, c'était pas théorique. Hein. Je vous donne un tout petit peu qui sont des notions qui sont importantes dans le domaine des risques. Hein. On parle beaucoup de principe de précaution, par exemple. Ça, vous avez tous entendu parler du principe de précaution. Et puis de prévention. Alors, c'est pas la même chose. Il ne faut pas tout confondre. Donc, à ces situations dont je vous ai parlé, évoquées, on applique des principes différents, des principes d'action différents. Alors, le principe de prévention n'est pas le principe de précaution, tout à fait. Mais souvent, on les mélange. Si je le dis, c'est parce que très souvent, on les mélange. D'ailleurs, on a parlé justement à propos de l'épidémie de grippe, de l'IPA, on a parlé de principe de précaution, alors qu'on était, pour moi et pour quasiment tous les spécialistes du domaine, dans la question de la prévention. Alors, la prévention, c'est quand on peut, dans une certaine mesure, prévoir les accidents possibles. Puis dans une certaine mesure, parce que tout n'est pas très visible, puisque sinon il y a des accidents, donc ça veut dire qu'on n'a pas tout prévu. Mais quand même, dans une certaine mesure, on peut prévoir ce qui va se passer sur tel ou tel site, avec tel ou tel produit, et on peut se protéger avant. Donc on peut appliquer un principe de prévention, de prévenir la survenue de l'accident. Hein. On peut aussi imaginer, anticiper les effets et faire en sorte préventivement qu'il y en ait le moins possible. Donc on peut prévenir de deux manières, diminuer le risque à la source ou diminuer les dégâts ensuite à l'arrivée. Hein, voilà. Mais on est dans quelque chose qui est connu. Alors évidemment, quand on est dans le champ du risque, on pense toujours à un accident futur. Alors c'est pas tout à fait du connu, c'est forcément de l'inconnu, du pas prévisible, des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais néanmoins, quand même, on sait, on connaît les effets de la radioactivité, on sait les effets du chlore sur l'organisme, on sait à peu près comment se propage un virus et comment se propage une grippe saisonnière. Tout ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser. Pareil dans le risque naturel. On peut prévoir à peu près les débordements, les crues et les inondations des rivières. Quand il y a de la neige, on peut prévoir les avalanches. Enfin, on est dans de la prévention parce qu'on est dans quelque chose de connu. Autre chose est le principe de précaution qui s'applique à des situations qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas prévoir, où ce qui domine, c'est l'incertitude. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que... Non. Hop. Parce que ce principe s'applique tout particulièrement à ces risques que j'ai appelé ici risque émergent ou risque de développement, qui ont trait à une substance nouvelle, un produit nouveau qu'on met sur le marché, qui arrive sur le marché, qui a été peut-être testé, mais on n'a pas assez de recul et on ne sait pas. On ne sait pas les effets. En tout cas, il y a un soupçon d'effet dommageable. Mais on ne peut pas les évaluer scientifiquement. Alors, vous en avez tous à l'esprit. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe autour des OGM. Donc, à la fois, il y a incertitude, et en même temps, il y a controverse. Voire polémique vive. Voire confrontation, conflit important, social, politique, autour de ces nouveautés, de ces technologies nouvelles qui arrivent sur le marché sont susceptibles, disent certains, puis évidemment les industriels disent mais non, pas du tout, tout est sous contrôle, et puis vous avez des experts, des associations qui disent mais pas du tout, bien au contraire, c'est extrêmement dangereux, et donc on a affaire à des risques incertains, émergents, on les appelle émergents, ou les assureurs les appellent des risques de développement. Alors, parce qu'effectivement, c'est que dans le développement qu'on va s'en apercevoir. Alors, si vous voulez, au départ, il n'y a pas forcément d'intention malveillante, il n'y a même pas de savoir. L'état des connaissances scientifiques, au moment où on a mis la substance sur le marché, on peut penser qu'il n'y avait pas de risque, quoique les gens qui ne sont pas d'accord disent qu'on aurait pu le savoir, mais qu'on a un petit peu laissé de côté, parce que comme il y a de l'argent à faire, eh bien, c'est quand même la perspective des affaires qui l'emporte. Voilà, donc on a affaire à ces risques qu'on dit nouveaux, et c'est par rapport à cela qu'on parle de principe de précaution. Qui suppose qu'on prenne des précautions tout à fait particulières et qu'on applique, on leur applique une... On ait une action, un type d'action qui soit un peu différent. Alors je vais vous le donner parce que ce principe de précaution, autour duquel beaucoup de gens bataillent, il a été traduit dans la Constitution, il a été inscrit dans la Constitution française, il a d'abord fait l'objet d'un article de la Charte de l'environnement, c'était 2004 je crois, et il a été inscrit dans la Constitution française en 2005. Mais grosso modo, il est quand même appliqué, c'est un principe qu'on retrouve dans le droit de beaucoup de pays et qui existe au plan du droit international. Et maintenant, évidemment, je suis un peu restée là-dessus, c'est que comme on le met à toutes les sauces, je trouve que c'est important de bien identifier à quoi il s'applique. C'est clair ce que vous voulez que je... Oui ? Alors, je vais vous donner la définition de l'article 5 de la Charte de l'environnement, qui donc est maintenant dans la Constitution. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Ce que ça dit en clair, c'est qu'on ne va pas attendre pour agir, pour se prémunir, pour agir, pour mettre en œuvre des mesures de sécurité, on ne va pas attendre qu'on ait des certitudes scientifiques. Donc les experts peuvent continuer à chercher, absolument, il faut mettre en... Quelqu'un a dit ça, c'est très très bien. Ils peuvent continuer à chercher, les chercheurs, on peut mettre en place d'ailleurs des programmes de recherche, c'est ce qui se passe en ce moment sur les nanotechnologies. Un des grands champs d'application de ce principe de précaution sont les nanotechnologies, qui sont très controversées. Vous avez certainement dû en entendre parler. Non ? Ça vous dit quelque chose, nanotechnologie ? Vous savez, c'est l'incorporation dans des produits d'autres technologies de particules extrêmement infinitésimales. Bon, moi je ne suis pas technicienne, je ne veux pas aller plus loin, mais on travaille à une telle échelle qu'en fait on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Voilà. Donc les nanotechnologies sont un champ d'application rêvé en ce moment pour le principe de précaution. Et effectivement, on voit ce qui se passe. Et il y a eu, il a été mis en œuvre des actions de la part des pouvoirs publics qui illustrent bien ce que c'est que le principe de précaution. Il y a d'abord eu une consultation publique, une grande concertation, vous savez, on appelle les conférences de consensus, ça vous dit quelque chose ? C'était pas tout à fait là, une conférence de consensus, mais enfin ça ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'on a organisé des débats et des controverses avec des associations, la population, les experts, les pouvoirs publics, les fabricants, etc., pour que se confrontent les points de vue. Il y a également des programmes de recherche qui ont été lancés. Il y a un très gros programme de recherche qui est parti du CNRS, ça ne s'appelle plus CNRS maintenant, c'est l'Agence nationale de la recherche, sur les nanotechnologies, où il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler là-dessus pour évaluer les risques des nanotechnologies. Pour autant, on n'a pas complètement, on n'a pas gelé la diffusion de ces produits, parce que en fait, il y en a un peu partout. Bon. Mais voilà un exemple de risque émergent auquel s'applique le principe de précaution. Alors, il y avait les OGM, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, je ne sais pas, vous devez... il y a eu quelque chose sur les biberons, là, quelque chose qui était bisphénol. Voilà, chose comme ça. Et là, c'est encore une polémique. Est-ce que ça, c'est dangereux, toxique pour les enfants ou pas, pour les bébés ? Vous voyez, bon, alors est-ce qu'il faut interdire, pas interdire ? Bon. Vous voyez un peu le genre de questions, de dilemmes qui se posent aux autorités sanitaires, aux pouvoirs publics, aux consommateurs, parce que c'est aussi aux consommateurs de se dire bah, qu'est-ce que je fais moi, avec toutes les informations qui sont là, que j'ai. C'est aussi le travail du consommateur à la base, de s'informer et de savoir quel risque il souhaite prendre ou ne pas prendre. Et jusqu'à quel point il peut être informé. Voilà. Donc, alors, je vous ai mis un petit schéma, là c'est un peu pour récapituler, je dirais, faire un petit arrêt sur l'image, pour développer un peu du risque à la catastrophe, tous les embranchements et toutes les circulations possibles, enfin possibles, identifiées. Alors au départ, vous avez une situation à risque, c'est-à-dire un danger identifié, hein, plus ou moins identifié sur une installation, ce que vous voulez. Il a été soit mal détecté, mal identifié, c'est le cas d'AZF, hein, puisque, encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé, soit il est identifié, mais il y a eu une série d'erreurs, il y a des pannes, il y a des négligences, enfin, un enchaînement de circonstances qui fait que, de l'état de risque, on arrive à une situation accidentelle. Voilà, le risque est en train de se réaliser, on n'est plus dans le... Là, on est dans la réalisation du risque, on arrive vers l'accident. Situation accidentelle, nous sommes dans des pays développés, où il y a beaucoup de procédures de sécurité, des politiques de prévention des risques, on va les voir tout à l'heure. Donc on les met en œuvre, sur le site même, des parades, on essaye d'y parer. Voilà. Si je dis active et passive, c'est parce que... à l'instar de l'enceinte de confinement du réacteur, c'est une parade passive. Elle est là, de toute façon. Hein? Donc on espère qu'elle va tenir. Le mieux, c'est qu'elle tienne. Donc ça, c'est une parade passive. Une parade active, c'est qu'on va faire un certain nombre de mesures, de manœuvres, on va brancher une pompe de secours, etc. Là, pour faire en sorte que l'accident soit contenu et qu'on revienne à la situation normale. Si effectivement ces parades sont efficaces, on revient à la situation normale. Si elles sont inefficaces, le risque sort, l'accident se produit, ça sort du site, et on arrive à une situation de crise, qui concerne souvent plus seulement le site lui-même, mais qui commence à concerner l'environnement. Donc situation de crise, avec tout un tas de procédures, d'alerte, de mise en mouvement, de mobilisation, de tas de gens, de professionnels, à commencer par le préfet, qui normalement est le premier à être aux commandes, mais des quantités d'autres gens, lequel déclenche des plans de secours et d'intervention. Est-ce que vous voyez à peu près qui intervient dans une crise, dans une situation comme ça? Vous avez une idée qui sont les personnels qui interviennent Je suis étonnée que vous ne citiez même pas les pompiers, parce que. Mais vous avez le SAMU aussi, hein, pour les futurs. Hein. Le plan sec, très bien, très bien. Effectivement, déclenchement du plan sec, ou des plans qui ont d'autres noms, plan particulier d'intervention, plan rouge, enfin bon. Alors. Mais le plan sec, c'est vraiment le plan. C'est le plan de référence. Hein. Alors, ces secours interviennent. Ils peuvent être tout à fait efficaces. L'organisation des secours en France n'est pas mauvaise du tout. Donc, en général, les pompiers sont assez efficaces. Pas seulement les pompiers, il n'y a pas que ce qui intervient. La médecine d'urgence, les SAMU, des fois c'est l'armée, des associations, protection civile, enfin bon. C'est efficace. La crise est contrôlée. Il y a des dommages, mais enfin, c'est pas considérable, c'est acceptable. Et puis, il arrive que les secours soient totalement débordés. Ça a été le cas à AZF, par exemple, à Toulouse. Toutes les procédures et les plans de crise ont été débordés et la ville est restée en crise fort longtemps. C'est un peu le cas de Haïti, hein. Il n'y a pas eu d'efficacité de la gestion de crise. Donc, si les plans n'arrivent pas à bout, si, eh bien, on arrive là dans la catastrophe. Mais avant, on est dans l'accident. On arrive dans la catastrophe, il y a des victimes nombreuses. Et pour tout le monde, c'est inacceptable. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, c'est inacceptable. En général, il y a un scandale, il y a un débat médiatique, souvent, enfin, il y a un procès derrière, la plupart du temps, etc. Ça peut créer une crise sociale et politique. Si je suis trop longue là-dessus, hein, vous me demandez pas. Si c'est pas clair, vous m'arrêtez aussi. Hein. D'ailleurs, on commence à s'acheminer vers la fin parce que je peux quand même pas vous parler de tout ça sans parler justement de ce qui est fait, de ce qu'on appelle la politique publique de prévention des risques et de gestion des crises, qui est quand même là pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'accidents possibles et que quand il y en a, il y ait le moins de dégâts possibles. Alors, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est aussi un domaine assez complexe. En ce qui concerne la politique publique de prévention, la logique, la grande logique intellectuelle de la prévention, elle a trois pieds. C'est un dispositif à trois pieds. Le premier, c'est réduire les risques à la source, donc du côté de l'exploitant. Et là, vous avez tout un dispositif qui met les usines à risque dites Céveso, donc sous surveillance. Vous avez 670 établissements Céveso en France. Donc, c'est 670 établissements, et puis il y en a tout un tas d'autres qui sont jugés moins à risque, mais quand même surveillés, sont surveillés par des inspecteurs des installations classées. Et le grand jeu entre les inspecteurs des installations classées et les industriels, c'est d'établir des scénarios de risque, c'est-à-dire d'essayer de comprendre tout ce qui pourrait se passer, le jouer d'une certaine manière, et mettre en œuvre ce qui peut empêcher que le scénario se produise. Voilà, donc ça c'est la réduction du risque à la source. Et puis, le deuxième pied extrêmement important aussi, c'est du côté de ce que je vous avais indiqué, le plus important, ce qu'on appelle la vulnérabilité, et bien faire en sorte que s'il y a accident, il y ait le moins de dommages possible pour les gens autour. Alors quand on est sur un risque, sur un site industriel, la grande prévention, en tout cas celle qui est choisie en France, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de gens qui s'y installent. Donc des plans de prévention des risques qui, en principe, limitent la construction dans un périmètre autour des installations dangereuses. Alors je vous dis tout de suite que ça marche plus ou moins bien, parce que les usines et la ville, une espèce de destin commun, vivent ensemble, et à chaque fois qu'il y a un accident, notamment après Toulouse, on a dit, bon, allez, on va faire des plans, etc. Donc on a créé des plans de prévention des risques technologiques. On fait ça un temps, et puis ça se perd dans les sables. Vous voyez, je vous le mets sur le transparent. Normalement, il faudrait en faire 421. On en a lancé 273 en 2010, et il y en a simplement 28 qui sont arrivés au bout, ce qui n'est encore pas beaucoup, 10 ans après, une catastrophe pareille. Et puis même, de toute façon, quand on les applique, assez rapidement on oublie et on reconstruit, voilà, autour. Mais enfin, quand même, c'est le deuxième point. Puis alors, on peut même pas simplement interdire l'urbanisation, mais on peut aussi obliger les constructeurs à prendre un certain nombre de précautions, déjà dans les murs, par exemple, pour faire que les gens puissent se confiner. Parce qu'une des grandes mesures de protection quand il y a un nuage toxique, c'est qu'on se confine. Donc, ben, il faut encore faut-il que les bâtiments soient étanches et soient aptes à être confinés. Ou prévoir les voies d'évacuation, etc. Et puis, troisième pilier très important, la vigilance collective. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, la prévention ça repose sur peut-être des acteurs spécialisés, mais aussi sur tout le monde. Et là, du côté de la vigilance collective, grosso modo, c'est l'information et la communication. Est-ce que les gens sont informés? Est-ce que vous savez, par exemple, vous, quels sont les risques qui sont identifiés sur le puits? Vous en avez une idée? Parce que vous savez qu'il y a une obligation d'information qui est très ancienne, hein, qui date de 1987. Les individus, les citoyens, ont droit à être informés des risques qu'ils encourent sur le territoire naturelles, technologiques, etc., ils doivent savoir. Donc, on doit élaborer des documents d'information, les communiquer. Par exemple, quand vous achetez une maison, maintenant, le notaire est obligé de vous dire, ah, attention, vous êtes en zone inondable. Voilà. Ou, bah, y a une usine. Bon. Mais ce n'est pas seulement les notaires, ce sont les communes. Les communes doivent faire, les communes et les départements, des dossiers d'information sur les risques majeurs. Et normalement, vous le trouvez sur Internet. Alors moi, j'ai tapé sur Internet, je suis allée voir au puits. Alors vous, au puits, j'ai trouvé que vous étiez soumis aux inondations, aux mouvements de terrain, y compris dans la ville du puits, il y a beaucoup de... vous êtes séisme également, transport de marchandises dangereuses, je vous le disais au début, c'est pour ça que j'ai insisté. Vous êtes traversé, j'imagine, par des camions qui traversent toute l'Europe avec des produits pas tellement sympathiques. Et affaissement minier. Vous ne saviez pas ? Il y a, dans une zone d'ancienne exploitation minière, et c'est le problème des zones, des mines qui sont abandonnées, on ne sait pas toujours, mais les risques d'affaissement donc, longtemps après même qu'une exploitation industrielle ait pris fin, eh bien, il y a encore des risques qui y sont liés. Alors, ça, c'était pour la prévention des risques, dans cette politique publique. Et puis, vous avez aussi la gestion des crises. Alors, vous l'avez dit, c'est les plans ORSEC, qui sont écrits, évidemment, avant la crise. Puis, des fois, on fait des exercices. Alors, peut-être vous avez eu vent, comme ça, des exercices qui sont organisés. En général, on ne demande pas à la population d'y participer, ce qui fait qu'on joue entre acteurs de l'urgence, et ça, c'est peut-être moins rigolo et peut-être moins probant. Mais, voilà, donc, du coup, les gens ne sont pas... la sensibilisation n'est pas très efficace. Et dans la situation d'urgence, les plans qui se mettent en œuvre prévoient évidemment tout ce qui est du domaine de l'alerte et de prévenir les gens, prévenir, alerter, communiquer, les médias. Alors, pour ceux qui se destinent à la communication, c'est un acteur important de la gestion de crise, c'est les communicants, par exemple. Pas seulement les médias, mais aussi les communicants de la cellule de crise, par exemple. Secourir, alors là, vous avez le personnel que vous connaissez bien, pompiers, médecins, le SAMU, des associations, la Croix-Rouge, des bénévoles, et puis l'entraide des habitants. Il ne faut pas oublier qu'une situation de crise, ce n'est pas uniquement des professionnels qui interviennent, mais ça dépend, ça repose beaucoup sur les individus, leur capacité à se protéger, et aussi leur capacité à protéger les leurs, leurs proches, et l'entraide. Voilà, et tout ça est géré et coordonné par ce qu'on appelle des cellules de crise, en général présidées par le préfet. Voilà, puis après la crise, on essaye d'en tirer les conséquences, donc on fait des défis, du retour d'expérience. Voilà. Alors, j'en suis à mon dernier point. Je voulais vous faire une petite conclusion sur les risques de l'avenir, quels sont les... Ce qui est un peu dans l'air du temps et ce que nous avons devant nous. En France, il y a toute une série de risques qui sont justement liés à la désindustrialisation du pays. Et ça, on n'en parle pas souvent. Mais les sites industriels abandonnés, souvent, qu'on appelle souvent des sites orphelins d'ailleurs, abandonnent des produits toxiques, des sols pollués, tout un tas de choses qui sont aussi pas très sympathiques et qui sont en déshérence, qui n'ont des fois plus de propriétaires. On ne les trouve plus. On gère aujourd'hui les sites du 19e siècle, sites orphelins, voilà, et qui sont facteurs de risque. Donc, comme la désindustrialisation est quand même un phénomène massif qui touche la France, eh bien, il va y avoir une génération de risques qui va être liée à ça. Vous avez le réchauffement climatique. Alors ça, tout le monde le sait, bien sûr, mais je vous le signale parce que c'est très intéressant pour les professionnels que nous sommes, puisque là, on a, d'une manière très claire et très exemplaire, un risque qui combine le risque naturel, la nature, et les activités humaines. C'est pour ça qu'on l'appelle risque anthropique, de anthropos, l'homme, mais qui, en même temps, est bien la rencontre entre les éléments naturels, là, le climat, l'atmosphère, etc., et les activités humaines industrielles. Et donc, on est dans une nouvelle génération de risques. On ne sépare plus des risques industriels, des risques naturels, etc. je vous en dirai deux mots. Et puis, les risques très bien identifiés, il y a encore beaucoup à faire pour en faire l'inventaire, mais au moins très préoccupant, qui est le risque sur la biodiversité marine et terrestre. Alors, peut-être vous le savez, c'est ma dernière, mon dernier transparent. Justement, je voulais terminer sur un peu le réchauffement climatique. Avec les conséquences possibles en France. Je voulais vous en parler un peu pour la France, parce que la plupart du temps, on pense aux pays tropicaux, aux pays du Sud, et on voit les catastrophes là-bas, et on ne sait pas que nous sommes tous dans le bateau du réchauffement climatique. Selon les experts du GIEC, maintenant, malgré quelques controverses, il y a quand même un très grand consensus des scientifiques, le réchauffement pourrait être compris entre 2 et 6 degrés d'ici la fin de ce siècle. Moi, je ne le vivrai pas. Vous en vivrez une bonne partie. Mais mes petits-enfants, qui sont autour d'un an ou deux ans actuellement, eh ben, ils vont se prendre complètement le réchauffement climatique. Donc 6 degrés, c'est extrêmement important. Ça fait, si vous voulez, d'ici à peu près le milieu du siècle, fin du siècle, ça veut dire, pour un pays comme la France, ou tout l'arc alpin, notre région, qu'on passerait à un été caniculaire sur deux, du style 2003, et on passerait à une moyenne de journée, même plutôt de nuit, au-dessus de 35 degrés, à 15 par an, alors que nous sommes à 1, quelque chose comme ça, 15 par an, et c'est très important parce que ça, c'est un seuil sanitaire. C'est-à-dire, la catastrophe, la canicule de 2003, qui a fait un certain nombre de décès chez les personnes âgées, on a eu pendant cet été-là une série de températures qui sont durablement, de journées qui sont restées au-dessus de 31 degrés, et c'est un seuil sanitaire de danger, très important. Je le dis pour les infirmiers, infirmières qui sont dans cette salle, certainement vous serez confrontés à ça d'une manière probablement importante. Alors, voilà, donc on est là. Et alors, ce qui est attendu en France, alors vous savez que ce qu'on en attend dans le monde, c'est une intensification des phénomènes extrêmes, climatiques extrêmes, pas forcément plus, mais des phénomènes plus importants. Des inondations et des ouragans, etc., des phénomènes plus importants, des sécheresses aussi, des sécheresses plus importantes. Pour la France, ce qui est identifié, alors en France, il y a, est en train de sortir des tuyaux, si je puis dire, un plan national d'adaptation climat. Il y a déjà un certain nombre de régions qui, dans l'agenda 21, peut-être la vôtre, a déjà adopté un plan climat, mais disons que plan national, nous sommes dans la stratégie nationale d'adaptation au climat. Il y a eu toute une série de consultations, je le dis parce que comme j'ai fait partie des commissions, j'ai capté un certain nombre d'informations tout à fait intéressantes. Et justement, ah, c'est pas beau, hein, mon transparent. Excusez-moi, je ne manipule pas très bien la technique. Il me déborde un peu mon programme. Donc ce que nous redoutons surtout en France, c'est submersion du littoral. Quelque chose du genre Xintia, vous vous rappelez, avec une hausse due à la hausse du niveau des mers qui pourrait être à peu près d'un mètre, on l'anticipe en France, d'un mètre d'ici la fin du siècle. Or, on a 5000 km de côte et on en a une partie qui sont très haut niveau des côtes. Également donc des inondations accrues et puis un phénomène de rétractation des sols sous l'effet de la sécheresse. On appelle la subsidence. Peut-être vous en aurez par ici. La petite photo que je vous ai montrée, que je mets, c'est l'île de Tuvalu dans le Pacifique, qui est cette île du Pacifique qui sera la première, qui commence déjà à être pas mal attaquée, submergée par la hausse du niveau des mers. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. J'essaierai d'y répondre.